Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous voir. Tout d'abord, nous allons lire. C'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 1. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit, « Non Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Merci beaucoup. Je crois que l'allemand est très difficile à apprendre. Nous avons notre église dans plus de 100 pays. Et aujourd'hui, dans l'après-midi à midi, j'ai pris l'avion. Mais j'avais un peu de retard. Et aujourd'hui, je suis arrivé à Francfort. Lorsque je vois vous, les frères et les sœurs, je suis très content. Je pense que parce qu'on est en Christ, les Allemands, les Coréens, il n'y a pas de différence. Je suis très reconnaissant que dans votre cœur aussi, vous avez Jésus-Christ. On est très reconnaissant que Dieu, il est en train de travailler dans notre cœur. Et je vous prie de venir une fois en Corée. Aujourd'hui, l'avion a quitté Incheon, en Corée. Et en traversant la Mongolie, on est arrivé ici. On a aussi traversé Omsk. On a aussi traversé Moskva. Nous avons aussi traversé Berlin. Et en fin de compte, on est arrivé à Francfort. Et toutes les villes qu'on a traversées, c'était aimable. On est très reconnaissant de pouvoir se rencontrer au nom de Jésus. Et ce soir, je voudrais vous raconter une histoire. Je pense que c'est une histoire qui s'est passée il y a 10 ans. Lorsque nous organisons un événement, nous invitons les ambassadeurs, le consul de plusieurs ambassades. Et une fois, il y avait un ambassadeur de l'Amérique latine que je connais très bien. Un jour, cet ambassadeur venait dans mon bureau et puis il m'a demandé d'aider sa fille. Du coup, je suis allé dans son appartement pour rencontrer sa fille. Mais dès que sa fille me voyait, elle est entrée dans sa chambre et puis elle a fermé la porte à clé. Mais son père, devant la porte de la chambre de sa fille, il a supplié, « Ma fille, sors. Ma fille, ouvre la porte. Le pasteur, il est vraiment occupé. » Son père, il a vraiment supplié devant la chambre de sa fille. Au bout des 30 minutes, la porte est ouverte. Et puis nous trois, on était assis dans le salon, on a commencé à discuter. Cet ambassadeur, il était en Corée avec sa femme et sa fille, les trois. Un jour, il a beaucoup querellé avec sa femme. Et plus il querellait avec sa femme, plus il était plus fâché. Plus il était fâché. Il a dit, aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va continuer demain. Il voulait parler d'une manière tranquille. Mais le mari et la femme, tous les deux, ils étaient vraiment fâchés. Lorsque le mari regardait sa femme, il était vraiment fâché. Avant, elle était une femme qui était vraiment gentille et qui était très bonne. Mais comment elle peut changer, comment elle peut changer comme ça? Alors son mari, il ne comprenait pas du tout. Il ne comprenait pas c'est quoi la véritable image de sa femme. Il ne savait pas si c'était vraiment son image. Il comprenait plus si avant c'était son vraie image ou bien c'est maintenant que son vraie image est dévoilée. Donc il s'est demandé si l'image d'avant c'était la vraie image. Et de la bouche de sa femme, il écoutait des choses qu'il n'imaginait pas. Sa femme, elle a parlé de divorce. En fait, tous les deux, ils ne voulaient pas divorcer. Mais parce qu'ils étaient vraiment fâchés. Ils avaient l'impression de tuer l'un et l'autre. Du coup, il vaut mieux de divorcer. Donc, ils ont divorcé. En ce moment-là, sa fille, il avait 12 ans. Sa femme lui a dit, je ne vais plus vivre avec toi. Je vais vivre sans toi. Je vais vivre dans un endroit où tu n'existes pas. Donc sa femme, elle disait qu'elle va partir en Europe. Je ne sais pas si elle est présente ici aujourd'hui. Donc maintenant, l'ambassadeur, il vivait avec sa fille. Mais sa fille, sa maman vraiment lui manquait. Sa maman lui manquait beaucoup. Mais parce que son père a détesté sa mère. Et sa fille, devant son père, elle ne pouvait pas dire à son père que sa maman lui manque. Alors, depuis ces jours-là, à chaque fois qu'elle retournait de l'école, elle entrait immédiatement dans la chambre. Et toute la journée, elle pleurait, et que sa maman lui manquait. Peut-être ma maman aussi, elle me déteste. Si je lui manque, elle m'aurait déjà appelé. Je ne sais plus si ma maman est vivante ou elle est morte. Ensuite, 1 an, 2 ans, 3 ans ont passé. Sa fille, elle est entrée dans l'université. Mais toujours, elle vivait dans les ténèbres. Donc maintenant, c'est devenu une habitude d'entrer dans la chambre immédiatement après qu'elle ait retourné de l'école. Et dans la chambre très sombre, elle appelait le nom de sa maman, elle appelait le nom de son maman. Et après licence, elle a pensé que ma vie est vraiment triste. Je souffre beaucoup. Moi, je suis dans un monde où il n'y a que le désespoir, la solitude. Et lorsqu'elle était à l'âge où elle devait finir les études et licences, elle s'est dit pendant longtemps, j'ai perdu beaucoup de temps en appelant le nom de ma maman. J'ai souffert beaucoup. J'étais très triste. J'étais vraiment douloureuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de sa fille? Elle avait l'impression que même dans le futur, sa vie serait toujours misérable. Si je dois vivre la même vie, il vaut mieux de mourir. Une pensée est entrée dans le cœur de cette fille. Et cette pensée a entraîné cette fille. Moi, fin février en 1988, j'ai reçu un coup de fil. En ce moment-là, j'étais en train de donner le sermon dans une émission télévisée. La personne qui m'a appelé, il était le chef de, il était le directeur de la prison de Swan. Il m'a dit, Pasteur Park, bonjour. Pasteur Park, j'ai écouté votre sermon dans une émission et ça m'a vraiment aimé. J'ai vraiment aimé cette émission. Du coup, je voulais causer avec vous. Mais comme je n'avais pas votre numéro, je ne pouvais pas vous appeler. Mais il y a quelques jours, dans notre prison, on vérifiait la lettre. Et on surveillait tous les magazines, les lettres qui entrent dans la prison. Et là, il y avait une magazine qui est intitulée Bonne Nouvelle. Donc lui, il dit, c'est quoi la bonne nouvelle? Il a ouvert ses magazines et au premier page, il voyait le passé Pâques. Il était vraiment content. Donc il a appelé l'église, il a demandé le numéro de passé Pâques. En fait, en Corée, le 1er mars, c'est le jour férié. Parce que le 1er mars, c'est le jour où on a fait le mouvement pour l'indépendance. Donc, il m'a invité de prêcher la parole le 1er mars, toute la journée de 9h jusqu'à 17h. Sauf le temps de déjeuner, il m'a donné le temps de prêcher l'évangile dans la prison. Dans ma vie, j'ai beaucoup de souvenirs. Parfois, lorsque je prêche l'évangile, les gens ils recevaient les saluts. Lorsque je prêche l'évangile, les gens ils ont eu le changement. Lorsque je me rappelle ça, en fait, ça me donne beaucoup de, ça me donne la paix et ça me donne une joie indescriptible. Moi, dans la prison de Souan pendant 10 ans. J'ai commencé à donner l'étude biblique aux prisonniers. Et pendant que je donnais les sermons, et j'ai plusieurs fois eu des occasions de causer avec les prisonniers. Et chaque prisonnier, ils ont le souvenir des péchés. Parce que eux, ils ont déjà planifié avant des péchés. Du coup, ils ont tous les souvenirs dans la tête. Et les prisonniers dans la prison, ils ont envie de partager ces péchés. Mais il n'aimait pas partager cette histoire des péchés avec tout le monde. Donc la plupart des cas, lorsque je cause avec les prisonniers, ils me racontent comment ils ont péché et ils sont entrés dans la prison. Pendant la première année dans la prison, j'ai rencontré beaucoup de meurtriers, beaucoup de pécheurs, prisonniers, et m'a raconté comment ils ont péché. Et en écoutant leur histoire, en causant avec eux, ce que j'ai découvert, c'est que tout le monde pêche. On peut avoir plusieurs variétés du péché, telles que le vol, le mensonge, ainsi de suite. Mais lorsque j'ai rencontré le prisonnier, lorsque j'ai causé avec eux, ce que j'ai ressenti, aujourd'hui, en venant ici de l'aéroport, sur l'autoroute, mais ce qui était vraiment regrettable, c'est que les arbres étaient concentrés. Ce serait mieux de couper un peu les arbres pour que ça puisse grandir plus. Puisque l'Allemagne, c'est un pays démocratique. Je me disais que même si c'est pas grand, mais comme c'est un pays démocratique, on laisse tous les arbres comme ça. Moi, en regardant les arbres, je me suis dit, si on coupe un petit peu les arbres, ça peut grandir plus. Ce que vous devez savoir, à côté de l'autoroute, il y a beaucoup d'arbres. Les cultivateurs, ils plantent le blé, le riz sur le champ. Puisque mon père, il était cultivateur, paysan, du coup, il cultivait le champ. Moi aussi, beaucoup de fois, j'ai aidé mon père. C'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait pas les machines, du coup, on devait cultiver avec la main. Alors, pour avoir du riz, on devait planter le plant de riz. Et pour avoir les haricots, on doit planter les haricots. Et selon ce que nous plantons dans le champ, on peut récolter les haricots, le riz, le blé. Comment est-ce qu'un péché peut se créer dans notre cœur? Votre cœur, c'est le champ. Lorsque j'ai fréquenté la prison pendant une année et lorsque j'ai rencontré les prisonniers, j'ai compris que tout le monde pêche. Mais d'où est-ce que commence le péché? Ça commence du cœur. Dans notre vie, un jour, une pensée entre dans notre cœur. Et une pensée nous entraîne, nous conduit. La plupart des gens, ils sont entraînés par la pensée, mais ils ne savent pas exactement le résultat de cette pensée. C'est exactement pareil pour la fille de l'ambassadeur. La fille de l'ambassadeur, elle était vraiment misérable. Bon, j'étais assis avec elle, j'ai causé avec elle. On était assis comme ça et puis j'ai causé avec elle. Il y avait la fille de l'ambassadeur et il y avait moi. Lorsque les gens ils pêchent, ils plantent d'abord la semence dans le cœur. Une femme ne peut pas accoucher un bébé. Elle doit se marier et elle doit accepter la semence de son mari. Lorsqu'elle accepte la semence de son mari, apparemment, il n'y a pas de différence. Mais dans le ventre, la semence grandit. 5 mois, 6 mois plus tard, on peut voir que le ventre devient de plus en plus grand. Les gens me demandent, ça fait combien de mois pour moi? Je lui dis, ça fait 74 ans pour moi. J'ai rigolé. Quand on plante la semence, on la couvre avec la terre. En apparence, on ne voit rien du tout, mais à l'intérieur de la terre, ça pousse et après, ça produit les fruits. Mais dans le cœur, dans le champ du cœur de l'homme, Dieu, il plante la parole de Dieu dans notre cœur. Mais au contraire, Satan, il plante le péché dans notre cœur. Si la parole de Dieu grandit dans notre cœur, mais si la semence du péché grandit dans le cœur, les gens, ils ne peuvent pas vraiment ressentir la semence du péché. En apparence, cette semence a l'air très belle. Mais après quelques temps, ce qu'ils peuvent ressentir, c'est que, enfin, après quelques temps, il devient pécheur, il devient prisonnier, il devient criminel. Mais si on voit Jean chapitre 13, verset 2, Satan, il a inspiré la pensée à Judas Iscariote de livrer Jésus-Christ. Dans notre cœur, il y a plusieurs pensées qui entrent et qui sortent. Mais en jour, lorsque le diable il plante une pensée dans notre cœur, cette pensée nous conduit et nous entraîne. Même si les gens ils sont intellectuels et sont intelligents, mais parce qu'ils ne connaissent pas le monde du cœur, ils sont entraînés par la pensée de Satan. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont péché, qui ont commis l'adultère, qui ont tué. Je peux voir qu'une pensée est entrée dans leur cœur et que cette pensée les a entraînés. Quand on plante la semence, en apparence, il paraît qu'il n'y a rien du tout. Mais si le temps passe, ça pousse et que ça porte beaucoup de fruits. C'est la même chose pour l'arbre du péché. Lorsque j'ai rencontré cette fille, lorsque j'ai causé avec elle, et elle disait qu'elle était vraiment misérable, et elle souffrait beaucoup, elle était triste. Pendant 10 ans, j'ai vécu dans la souffrance. J'ai l'impression que ma vie serait toujours misérable dans le futur. Si je dois mener la même vie, il vaut mieux de mourir. Alors elle a essayé de se suicider 2 fois. Mais un jour, enfin, elle avait une fois essayé de se suicider, mais son père, il l'a empêché. Et elle vivait avec son père. Dès que son père il est parti pour le travail le matin, sa fille elle a essayé de se suicider. Mais son père, en conduisant la voiture pour aller au boulot, et il s'est rappelé qu'elle avait laissé un document, un dossier à la maison. Du coup, il est retourné à la maison, mais elle a découvert que sa fille était en train de s'épandre. C'est ainsi qu'il l'a sauvé et qu'il l'a amené à l'hôpital. Donc, apparemment, c'est sa fille qui était problématique. Mais maintenant, son père aussi, il avait des problèmes. Il avait peur dans son cœur que C'est ainsi qu'il va perdre sa fille. Mais après un an et demi, sa fille n'a pas essayé de se suicider. Du coup, il pensait que sa fille va s'arrêter de se suicider. Mais après un an et demi, elle a encore essayé de se suicider. Donc son père, il avait très peur dans son cœur que moi je ne vais pas l'empêcher de se suicider. Donc son père, il est tombé dans le désespoir. Il est tombé dans la tristesse. Lui, il avait l'impression qu'un jour, il va perdre sa fille. Et il ne pouvait rien faire. Il s'est demandé si sa fille meurt, qu'est-ce que je peux vivre? Sans que son père, il pleuvait, il pleurait, il pleurait. Un jour, il est venu me voir dans mon bureau. Il a dit, Pasteur, aide-moi. Et puis, il m'a expliqué de sa fille. Mais je me suis dit, même si je ne peux pas l'aider, je dois aller la voir. Donc, je suis allé avec lui dans son appartement. Lorsque je suis entré dans l'appartement, j'ai regardé, sa fille m'a regardé et qu'elle est entrée immédiatement dans la chambre. Et puis elle a fermé la porte à clé, mais son père, il a supplié, ma fille, aide-moi, enfin, écoute-moi, ouvre la porte s'il te plaît. Son père, il a failli pleurer. Le pasteur, il est vraiment occupé. Il est justement venu pour te voir. Ouvre la porte et rencontre le pasteur. Ben, en fait, moi, je ne pouvais pas l'empêcher de se suicider. Au bout de 30 minutes, sa fille, elle a ouvert la porte. Du coup, elle est sortie. On était assis dans le salon. Alors, qu'est-ce que je devais lui dire? Est-ce que je devais lui dire, la fille, il ne faut pas te suicider? D'accord? Si tu te suicides, je vais te tuer, d'accord? Il faut pas te suicider. Il faut pas jouer aux jeux de vidéo. Il ne faut pas faire de la drogue. Il ne faut pas faire jeux de vidéo, jeux de hasard. Tout ça, ça n'a pas de force. Parce que lui-même aussi, il n'a pas envie de faire de la drogue, il n'a pas envie de faire il n'a pas envie de faire les jeux de vidéo. Mais il y a une force qui l'entraîne. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pêchent. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas surmonter le péché. La personne qui est accro à la drogue, on lui dit il faut pas faire de la drogue. Je n'ai pas dit comme ça. Mais moi, en lisant la Bible, il y avait beaucoup de choses que j'ai compris. La sagesse que j'ai, c'est la sagesse que j'ai eue à travers la Bible. Lorsque Jésus-Christ a rencontré les gens dans la Bible, les gens, ils étaient tous dans le désespoir. Mais je peux voir que Jésus-Christ, il a toujours parlé de l'espoir. À un homme malade de 38 ans, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu peux te lever, tu peux marcher, prends ton lit et marche. Pour l'homme malade de 38 ans, lorsqu'il écoutait la voix de Jésus-Christ, c'était vraiment l'espoir. Ah, je peux me relever, je peux marcher. Si j'écoute la voix de Jésus-Christ, je peux marcher. Et un jour, Jésus-Christ a dit à un aveugle, va te laver à Siloé. Aujourd'hui, nous avons lu Jean chapitre 8, et ce que Jésus-Christ a dit à la femme, c'était vraiment merveilleux, étonnante. Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire de la femme adultère, Jean chapitre 8. Mais ce qui est vraiment étonnant dans cette histoire, c'est que avant que cette femme rencontre Jésus-Christ, elle a commis l'adultère avec un homme autre que son mari. Alors, elle était censée être lapidée. Elle a commis l'adultère discrètement, mais on l'a arrêtée. Donc on l'a arrêtée, on l'a amenée à Jésus pour la lapider. Mais avant d'être lapidée, elle a rencontré Jésus. Donc les pharisiens, ils l'ont amenée à Jésus pour accuser Jésus. Jésus-Christ, il disait qu'il a aimé les pécheurs. On va demander à Jésus si on doit tuer la femme ou pas. Donc s'il nous demande de lapider cette femme, il disait souvent qu'il aimait, il aimait souvent les pécheurs, mais ça n'a pas de sens. Mais si Jésus-Christ dit de ne pas lapider la femme, ça veut dire que Jésus-Christ est le menteur. Alors pour éprouver Jésus, ils ont amené la femme à Jésus. Et puis on a entouré la femme et Jésus. Ils avaient la grosse pierre en main. Et la femme, en regardant la pierre, elle pensait, ah, si cette pierre frappe ma tête, je vais mourir. Elle avait vraiment peur dans son cœur. Les scribes, ils ont dit, Maître, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi, que dis-tu? Jésus-Christ, il s'est baissé, il écrivait sur la terre. Et Jésus-Christ, il a dit, parmi vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Tout le monde était étonné. Parce que eux, ils n'attendaient pas cette réponse de Jésus. L'un après l'autre, ils ont laissé tomber la pierre et ils retournaient à la maison. Et à la fin, il n'y avait que la femme et Jésus-Christ. Jésus-Christ a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est à tes condamnés. Elle a répondu, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. L'histoire de la femme adultère s'arrête là. Et si on voit seulement cette histoire, ce n'est pas intéressante, mais le monde du cœur est vraiment intéressant. Lorsqu'elle a commis l'adultère pour la première fois, qu'est-ce qui l'a entraînée de commettre l'adultère? Tout d'abord, Satan, il lui a donné la convoitise dans le cœur. La convoitise que Satan a donnée, cette convoitise l'a conduit de commettre l'adultère. Parce qu'elle a accepté cette convoitise, son cœur était rempli de la convoitise. Et en juillet, elle a commis l'adultère, elle a été arrêtée. Maintenant, elle est arrêtée. Et elle devait être lapidée. Quelques-uns, ils ont craché sur elle. Ils ont frappé la femme. Et quelqu'un, ils ont saisi les cheveux de la femme. Elle était tirée, entraînée par les hommes. Lorsqu'elle était arrêtée par les hommes, j'ai observé le cœur de la femme. Ah, bientôt, je vais mourir. Je n'ai pas d'autre moyen. Bientôt, je dois mourir. Avec cette peur, elle avait son cœur était rempli. Et à la fin, lorsqu'elle a rencontré Jésus, j'ai encore observé le cœur de la femme. Les pharisiens, ils ont demandé à Jésus, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, et Moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider telle femme. Maître, que dis-tu? Jésus-Christ, il s'est baissé et il écrivait sur la terre. Et il s'est relevé. Et puis il a dit, parmi vous, celui qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Et beaucoup de gens qui écoutaient la parole de Jésus, ils ont changé le cœur. Jusqu'à présent, les gens qui étaient là, ils ne voyaient que le péché de la femme, ils ne voyaient pas leur péché. Ils ont pensé que la femme est vraiment, vraiment sale, on doit tuer la femme. Il ne voyait que le péché de la femme. Il n'avait pas les yeux de voir leur propre péché. Mais à travers la parole de Jésus, Jésus leur a donné les yeux de découvrir leur péché. Lorsqu'ils ont découvert leur péché, ils avaient honte. Eux tous, ils sont retournés à la maison. À la fin, il n'y avait que Jésus et la femme. Jésus-Christ a demandé à la femme. Il a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est été condamné. Et elle répondit, non Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors Jésus a envoyé la femme. Lorsqu'elle a commis l'adultère pour la première fois, son cœur était rempli de la convoitise. C'était la convoitise qui l'a conduit de commettre l'adultère. J'ai rencontré plusieurs prisonniers dans la prison et j'ai causé avec eux. J'ai pu voir qu'il y avait une pensée qui les a entraînés à commettre le péché. Ah, ça va, même si je pêche, je ne vais pas être arrêté. Les gens qui pensaient comme ça, eux tous, ils sont entrés dans la prison. Satan a donné la convoitise au cœur de cette femme. Et lorsqu'ils étaient entraînés, conduits par la pensée qui vient de Satan, à la fin, ils ont commis le péché. Lorsqu'elle a commis l'adultère, et lorsqu'elle est entraînée par les hommes pour être lapidée, elle avait vraiment peur dans son cœur. J'ai observé le cœur de la femme. Elle était une femme qui était être lapidée. Jésus-Christ l'a sauvée. Jésus-Christ a chassé tout le monde qui voulait la lapider. Et Jésus-Christ lui a dit que tu ne te condamnes pas non plus. Et lorsque j'ai regardé le cœur de la femme en ce moment-là, ce que je pouvais voir dans son cœur, c'est qu'il y avait la reconnaissance dans son cœur. Tout le monde voulait la lapider. Tout le monde, il voulait me tuer. Mais Jésus-Christ, il m'a aimé. Je suis une pécheresse très sale. Mais il m'a dit qu'il ne me condamne pas. Si nous sommes dans la même situation, tous, nous allons avoir en cœur reconnaissant, on va avoir la reconnaissance dans le cœur. Alors, après Jésus-Christ l'a sauvé, quelle pensée est-ce qu'elle va avoir? Est-ce qu'elle va dire, « Ah, je suis très contente, Jésus-Christ m'a sauvé, je vais encore commettre le péché. » Est-ce qu'elle va dire comme ça? Non. Dans la Bible, la femme, son cœur était rempli de la convoitise et de la pensée, mais Jésus-Christ a donné un nouveau cœur à cette femme. À la personne qui est remplie de désirs, à la personne qui est remplie de la convoitise, après que cette personne rencontre Jésus, la convoitise a disparu, la peur a disparu, mais désormais, le cœur est rempli de la reconnaissance, de la joie et du bonheur. C'est ce que fait Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est paysan, il est cultivateur. Il est en train de cultiver le champ de notre cœur. Il arrache la méchanceté, il arrache la peur, il arrache les inquiétudes et il plante la paix. Et il plante l'amour dans votre cœur. Il plante la joie dans votre cœur. Il plante la foi dans votre cœur. Et les gens qui rencontrent Jésus, Les gens qui rencontrent Jésus, leur cœur change. Jésus-Christ a planté un nouveau cœur dans les champs, dans le cœur de la femme adultère. Lorsque j'ai rencontré la fille de l'ambassadeur, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Tu ne dois pas te tuer, tu ne dois pas te suicider. Si je dis comme ça, cette parole ne pourrait pas l'empêcher de se suicider. Mais moi, je voulais ressembler à Jésus. Du coup, je parlais de l'espoir. Si son cœur est rempli de l'espoir. Ah, jusqu'à présent, j'ai mené la vie vraiment misérable. Même dans le futur, si je dois mener la même vie, je dois me suicider. Pendant 2 heures, pendant 3 heures, j'ai parlé de l'espoir. Je suis quelqu'un qui parle de l'espoir. En Corée, nous avons beaucoup de problèmes de la jeunesse. Et nous organisons le camp d'IYF en Corée. Un jour, nous sommes discutés. Où est-ce qu'on va organiser le camp d'IYF? Alors j'ai demandé. Là où les étudiants veulent aller le plus, c'est là qu'on va organiser le camp. Alors on a fait une petite recherche. Et je me suis dit, quelqu'un me disait que tous les étudiants, ils voulaient aller à Hawaï. Alors j'ai dit, cet été, nous tous, nous allons aller à Hawaï. Alors, 2500 étudiants, on a décidé d'aller à Hawaï. Mais il y avait beaucoup de problèmes. Puisque Hawaï, il fait partie des États-Unis. Sans recevoir le visa des États-Unis, on ne pouvait pas y aller. Et c'est que pour recevoir le visa des États-Unis, ce qu'ils demandent, c'est le financier. Ben en fait, l'ambassade demande le compte financier. Enfin, on a prouvé qu'on a assez d'argent. Mais parmi les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient pauvres. On a donc appelé l'ambassade des États-Unis. Et on a causé avec l'ambassadeur des États-Unis. Il était vraiment touché. Il était très content de nous écouter. Et il nous a aidés. Il a donné les visas à tous les étudiants, sauf les étudiants qui ont une fois commis un délai empêché aux États-Unis. Donc, sauf deux personnes, tous les étudiants, ils ont reçu le visa, ils sont allés aux États-Unis. Mais c'est ainsi qu'on a résolu le problème des visas, mais on avait encore un autre problème, c'est l'avion. Il n'y avait qu'un seul avion, qu'un seul vol qui partait de Incheon jusqu'à Hawaï, chaque jour. Mais cet avion était vraiment petit, du coup on ne pouvait pas ramener tous les étudiants à Hawaï avec cet avion. Donc je suis allé voir Korean Air. J'ai expliqué la situation et j'ai demandé l'aide. Donc Korean Air, il nous a prêté Boeing 777, un gros avion. Et avec cet avion, tous les étudiants, ils ont pu aller à Hawaï. Mais on avait un autre problème, c'était l'hôtel. On ne pouvait pas trouver l'hôtel qui peut recevoir 2500 étudiants. Mais tout le monde me demandait, Pasteur, on va vraiment faire le camp d'Aiwaïef à Hawaï. Tout le monde, ils n'ont pas cru. Ils n'y croyaient pas. Ils disaient que pour avoir un camp ici à Hawaï, il faut le préparer 3 ans avant. Vous savez, les Coréens, ils travaillent très instinctivement. Pour les Japonais, pour les autres pays, ils travaillent. Avant de travailler, ils établissent d'abord le plan. Pour le Coréen, lorsque le Coréen voit les Japonais, ils travaillent pas très bien parce que pour le Coréen, ils pensent qu'on peut se dépêcher, on peut travailler très vite, mais les Japonais, avant d'agir, avant de travailler, ils doivent d'abord planifier, établir les plans. Donc tout le monde nous disait que pour avoir l'hôtel, il faut demander, il faut faire une demande 3 ans avant. Mais il vous reste seulement 3 mois et trouver la chambre pour 2500 étudiants, c'est pas possible. Mais heureusement, il y avait des gens qui nous aidaient. Il y avait des gens qui nous aidaient. Il y avait un président d'une compagnie du tourisme. Il est venu nous voir. Et il nous disait que pour préparer ce genre d'événement, il faut le préparer 3 ans avant. Il a dit, mais je vais préparer la chambre pour 2500 étudiants. Mais il y a une seule condition. C'est impossible qu'un hôtel accueille 2500 étudiants. Si on peut diviser les étudiants dans 4 hôtels différents, on va trouver l'hôtel pour vous. C'est comme ça qu'il a dit, donc on a divisé en 4 hôtels. On a divisé les étudiants dans 4 hôtels et le camp qu'on avait organisé à Hawaï, c'était vraiment merveilleux et j'ai envie d'y aller encore une fois. Je pense que cette fois-ci, ce serait pas difficile. Nous sommes allés à la plage Waikiki, à Hawaï. Et en ce moment-là, passé Oyanshin, il était à l'église à Hawaï. Je pense qu'il aurait envie d'y aller. Puisque c'est une île très belle. Mais moi, je suis déjà allé à Fiji. Fiji, qui est plus belle que Hawaï. Fiji, le paysage, c'est très très magnifique. Il faut y aller peut-être une fois 3 ans, parce que si vous y habitez, vous n'allez pas apprécier la beauté des paysages. Et lorsque je regardais le paysage des Fiji, je ne pouvais pas y entrer parce que c'était trop propre. J'avais peur que si j'y entre, je vais salir la plage. C'était vraiment merveilleux, c'était magnifique. J'ai envie d'y aller à Fiji avec mes petits-enfants. Lorsque je suis entré dans la mer, il y avait beaucoup de petits petits poissons bleus, jaunes, rouges. De toute façon, j'ai rencontré la fille de l'ambassadeur. Et qu'est-ce que je devais dire à la fille de l'ambassadeur? Il ne faut pas te suicider, il ne faut pas faire de la drogue. Est-ce que je dois dire comme ça? J'ai dit sans cesse de l'espoir à la fille. Moi, j'ai rencontré plusieurs prisonniers meurtriers et je les ai rencontrés dans la prison. Et moi, je leur ai dit. Lorsque j'ai rencontré les prisonniers, les meurtriers dans la prison, ils me disent que, pasteur, ma vie est vraiment misérable. Si je sors de la prison, je vais tuer la personne qui m'a mis dans la prison et je vais aussi me tuer. Parce que si je sors de la prison, qui va m'embaucher pour travailler? Personne. Mais lorsque j'ai écouté ça, j'ai dit à la personne, comme Jésus-Christ a fait, je lui ai dit, il ne faut pas penser comme ça. Il faut imaginer qu'un jour, ton fils, il va finir la licence. En ce moment-là, tu vas y aller à la cérémonie de remise des diplômes avec la fleur. Et tu vas donner ça à ton fils. Et tu serais très content. Et imagine que ton fils, il va se marier et que ton fils ramène sa petite amie devant toi. Si ton fils ramène sa petite amie devant toi et que si vous mangez ensemble le dîner, vous allez vraiment être heureux. Les gens, ils ne voient que le désespoir, le mauvais côté. Pendant 2 heures et demie, j'ai essayé de planter l'espoir dans son cœur, dans le cœur de la fille. Je lui ai expliqué comment être heureuse. Je lui ai dit que si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu vas être joyeuse. 2 heures et demie après, je me suis levé et je lui ai dit à la fin, ma femme, elle fait très bien la cuisine coréenne traditionnelle. Si tu veux, je voudrais t'inviter chez moi demain pour le déjeuner. Je suis très content de te rencontrer. Je vais t'inviter chez moi pour le déjeuner. Est-ce que tu veux y venir? Tu veux venir? Sa fille, elle était vraiment contente. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Cette fille, elle était vraiment misérable, mais j'ai planté l'espoir dans son cœur. Lendemain, elle est venue chez moi et elle a mangé ensemble avec nous. Et lendemain, vers midi, la fille de l'ambassadeur et l'ambassadeur, ils sont venus chez moi pour manger le déjeuner avec un petit cadeau. C'était sa première fois d'être invitée chez quelqu'un pour le déjeuner. Elle était vraiment contente. Elle dit, ah, pasteur, c'est trop délicieux. C'est très bon. Pasteur et l'épouse du pasteur, est-ce que vous pouvez m'apprendre à cuisiner ça? Donc la fille voulait apprendre de faire la cuisine coréenne. Du coup, l'ambassadeur, il a laissé sa fille chez moi et il est retourné à la maison. Et jusqu'à tard le soir, elle était chez moi. On discutait beaucoup, on préparait la cuisine, on mangeait ensemble. Autrefois, elle avait le désir, elle avait l'envie de se suicider, mais maintenant, elle a abandonné toute cette pensée, mais dans son cœur, elle est remplie de l'espoir et de la joie. Et après ça, un jour, son pays l'a envoyé, l'a affecté dans un autre pays. Du coup, l'ambassadeur, il est venu me voir, il dit, eh, pasteur, la Corée du Sud est devenir mon deuxième pays. Il pleurait, et il m'a dit, et il m'a dit, pasteur, mon pays. Mon pays m'a affecté en Thaïlande dans une semaine. Et lui, en pleurant, il a sorti son portable. Et puis il m'a donné le portable. Il dit, allô? Ah oui, passez, allô, bonjour. Je lui demandais, tu es où maintenant? Ah, pasteur, je suis désolé de ne pas te saluer. Je suis désolé de ne pas te dire au revoir. Je suis actuellement au Canada, à Montréal. Qu'est-ce que tu fais là? Pasteur, je suis actuellement dans une école de cuisine à Montréal, au Canada. C'était le jour où tu m'avais invité chez toi. La cuisine était vraiment bien. Du coup, ces jours-là, j'ai décidé de devenir cuisinière. Et elle m'a dit, Pasteur, si je vais finir, quand je vais finir les études à Montréal, je vais ouvrir un restaurant. Et je voudrais te demander une chose. Je sais que tu es très occupé, mais je te prie de venir une fois à mon restaurant. Et il faut manger la cuisine que je fais. Je sais pas si ça va être délicieux ou pas. Lorsque j'ai écouté ça, j'étais très très heureux. Elle était avant autrefois une fille qui voulait se suicider. Comme Jean chapitre 8, Jésus-Christ a planté l'espoir et l'amour dans le cœur de la femme adultère. Même aujourd'hui, dans le cœur de tout le monde. Il est en train de planter la reconnaissance. Il est en train de planter l'espoir, l'espérance. Il est en train de planter la joie dans le cœur de tout le monde. Je suis très reconnaissant. Maintenant, dans le cœur de cette femme, autrefois c'était rempli de la tristesse, mais la tristesse a disparu, son cœur est rempli de la joie, de la reconnaissance. Lorsque Jésus-Christ rencontre n'importe qui, comme si lorsque les champs rencontrent un bon cultivateur, à travers le cultivateur, on enlève, on arrache toutes les herbes. Et ces cultivateurs, ils cultivent le champ, ils ont les engrais. Le champ qui est rempli d'ivraies, ils plantent la paix, ils plantent la paix, ils plantent la joie, l'amour et l'espoir. C'est ce que Jésus-Christ fait. Même maintenant, c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire. C'est Jésus-Christ aujourd'hui, il fait ce travail à travers nous. À travers vous qui sont assis ici, comme la fille de l'ambassadeur, Je ne sais pas si elle ne m'avait pas rencontré, elle serait morte. Maintenant, elle a ouvert un restaurant à Montréal. Et je dois y aller une fois, si j'aurai l'occasion. Et elle a ouvert un restaurant français. Jésus-Christ a vécu dans mon cœur pendant 50 ans. Autrefois, j'étais vraiment méchant et je n'avais que le péché dans mon cœur. Mais Jésus-Christ, il a planté la lumière, l'espoir dans mon cœur, dans le cœur des autres aussi. Lorsque je plante aussi l'espoir et l'amour dans le cœur des autres personnes, je suis très content. En fait, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus-Christ qui est dans mon cœur, c'est lui qui le fait. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ, il a rencontré les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Il a toujours parlé de l'espoir. Vous aussi, il faut imiter Jésus. Devant les gens qui sont remplis de désespoir, tristesse, il faut parler de la joie, vous devez parler de l'espoir, vous devez parler de la rémission des péchés. Jésus-Christ, absolument, il va donner un nouveau cœur. Et quelques temps après, je suis allé en Thaïlande. Je suis allé en Thaïlande et j'ai appelé l'ambassadeur pour avoir le dîner ensemble. Il était vraiment content. Moi, autrefois, j'étais dans le péché. Mais à travers Jésus, on a changé. Et Jésus-Christ, il avait fait la même chose à travers vous. Si vous prêchez l'évangile, si vous plantez l'espoir, l'amour dans leur cœur, Jésus-Christ va être avec vous et va accorder la grâce. Et qu'il va nous laisser recevoir la grâce. C'est soit la Corée Gracias, ils ont bien chanté, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'école de musique de Gracias à New York, aux États-Unis. Et dans le cœur des élèves, ils avaient le cœur de aller à l'étranger en tant que missionnaire à court terme. Quelques étudiants de l'école de musique de Grajas, ils sont allés en Swaziland, en Afrique. Et comme ils chantaient très bien, en juillet, il y avait la cérémonie de remise des diplômes dans une université publique de Swaziland. Alors, ils sont allés à cette cérémonie de remise des diplômes. Et avant que la cérémonie ne commence, on a rencontré l'organisateur de ces cérémonies. Et on a présenté ses élèves, ses étudiants, et on lui a dit qu'ils chantent très bien. Et on a dit qu'ils sont venus pour féliciter cette cérémonie. Mais l'organisateur, il a refusé au début parce que aujourd'hui, pendant la cérémonie des remises des diplômes, le roi de Swaziland va venir. Du coup, comme le roi va venir, on ne peut pas changer le programme. Donc, on ne pouvait rien dire. On dit, d'accord, ça va. Mais après, l'organisateur, il a changé son cœur. Il dit, Le roi n'est pas encore venu, mais avant qu'il ne vienne, vous allez chanter, d'accord? D'accord, c'est bien. Donc, on a demandé de chanter trois chants. Mais les élèves, ils ont chanté très très bien. Ils ont chanté en langue swahilandaise. Alors, ils ont chanté le premier chant. Mais le roi est arrivé. Ils ont continué à chanter. Et le roi était assis devant. On a chanté un coup de chant. Et après, la cérémonie a pris fin. Après la cérémonie, le roi il a appelé le secrétaire général pour amener les élèves qui venaient de chanter. Donc le roi leur a demandé, vous êtes qui? Pourquoi vous chantez très bien? Et comment est-ce que vous chantez en dialecte swahilandais? Très bien. Les élèves, ils ont dit, nous sommes les élèves de l'école de musique des Crachas. Et on est venu ici en Swaziland pour faire le bénévolat. On fait partie d'IYF. Et dans quelques jours, le fondateur d'IYF, Pasteur Supark, il va venir en Swaziland. Donc quelques jours après, je suis allé en Swaziland. Le ministre de la Jeunesse est venu m'accueillir à l'aéroport. Et le soir, on m'a amené au palais royal pour me faire rencontrer le roi pendant 40 minutes. Donc, en tout cas, je suis allé voir le roi. J'ai causé avec lui. Au début, je lui ai prêché l'évangile pendant une demi-heure. Je ne pouvais pas regarder le visage du roi. Alors que lui, il m'a regardé continuellement comme ça. Donc je lui ai prêché pendant une demi-heure. Et j'ai arrêté. Lorsque j'ai arrêté, après 30 minutes, le roi dit, il faut continuer. Donc j'ai encore prêché 30 minutes plus. Donc, en tout, j'ai prêché pendant 1 heure. Le roi, il était vraiment content d'écouter la parole. Après mon sermon, le roi, il a dit, je vais vous donner un terrain. Et là, vous allez construire le centre d'IYF. Vous allez construire le bâtiment pour l'église aussi. Vous allez aussi construire un dortoir. Le roi, il écoutait souvent le serment d'en passer là-bas, mais lorsqu'il écoutait ma parole, il était très content, il voulait m'écouter plus. Donc en ce jour-là, on a pris la photo ensemble. Pendant 3 heures, on a causé avec le roi. Et après la conversation avec le roi, je suis monté dans la voiture pour retourner à la maison, mais soudainement, le secrétaire général est venu me dire, la princesse veut te voir, pasteur. Donc, je suis allé voir la princesse, je lui ai prêché aussi l'évangile. Et quelques mois plus tard, le gouvernement Swaziland, on m'a invité pour prêcher la parole pendant la prière. Bien-aimé, il faut vivre comme Jésus-Christ. Jésus-Christ va travailler. Moi, je ne savais rien faire. Pendant que je vivais pour l'évangile, j'ai pu voir que Dieu travaille à travers moi. Jésus-Christ a donné l'espoir et l'espérance à beaucoup de gens à travers nous. Jésus-Christ veut travailler puissamment à travers vous. Et je crois que votre cœur sera rempli de l'espoir et de la bénédiction. On va prier.